et cotisations retraite. La CFDT indique à son tour qu'elle est opposée à un allongement à 41 ans de cotisation. Moins d'Américains à Paris, moins de touristes américains, c'est ce qu'a pu constater l'Office du tourisme de la capitale. La baisse a été de plus de 5% l'an dernier. La baisse du dollar par rapport à l'euro serait une des raisons. Le succès ne se dément pas pour le film Bienvenue chez les Ch'tis. Il a déjà attiré plus de 14,5 millions de spectateurs dans les salles depuis le 27 février. Seule la Grande Vadrouille a fait mieux jusqu'à présent, avec plus de 17 millions de spectateurs, un record que les Ch'tis pourraient bien faire tomber. Les courses à Compiègne avec l'arrivée du Quintet dans la première, 9, 11, 5, 14 et 3. Dans la deuxième course, premier le 6, deuxième le 8 et troisième l'As.
Retrouvez tous les pronostics, les résultats, les bonnes affaires du jour par téléphone sur le 32 30, 34 centimes d'euros la minute. 32 30, France Inter au bout du fil. Tous les dimanches à 20h10, le masque et la plume.
C'est en couleur.
Jérôme Garcin.
Elle est parlant. Elle est très parlant.
Littérature.
Je me souviens de celui-là.
Je me souviens pas du tout. Je parle du film.
Tu peux dire quelques mots.
Oui. Théâtre.
Après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a une extraordinaire cohérence quand même du projet. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume consacré à la littérature et au cinéma, rendez-vous jeudi prochain à 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, partenaire du Printemps de Bourges du 15 au 20 avril. 6 jours de fête et plus de 45 concerts avec Catherine Ringer, Cali, Thomas Dutronc, Camille, Justice. France Inter et l'Express spécial Festival de Bourges avec Crédit Mutuel donnent le la au Printemps de Bourges. Renseignements sur franceinter.com.
franceinter.com.
Tous les programmes,
les émissions,
les chroniques,
les podcasts
sur franceinter.com. France Inter,
la différence.
La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h05, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Bonjour Francis de Nancy, bravo Daniel pour vos émissions. Je suis scandalisé par les propos que j'ai entendus de Ramayadé et de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner qui nous a donné une leçon de français, on ne dit pas boycott, on dit boycottage. Et trois fois dans l'interview, il utilise le mot boycott. Se réfugie derrière... les considérations économiques. Aujourd'hui, il y a une mondialisation des échanges. Enfin, tout ça, merci Bernard, on ne le savait pas. Et tout ça pour justifier qu'il allait devoir, avec ses collègues européens, envisager différentes mesures. Va-t-on ou non à la cérémonie d'ouverture? Est-ce que Nicolas Sarkozy doit y aller? Est-ce qu'on va faire une lettre? Bon, une lettre aux autorités chinoises. On va leur faire une lettre. Chères autorités... on n'est pas content de ce que vous faites aux Tibétains. Attention, c'est pas bien. Et puis voilà. Et puis encore une fois, l'économie va primer sur les considérations humaines et sur les droits de l'homme. C'est proprement scandaleux. On devrait prendre des décisions fermes, définitives. C'est noir ou c'est blanc. On y va ou on n'y va pas. Mais c'est pas gris.
Oui, bonjour, je téléphone à propos de mai 68. J'avais 34 ans à l'époque, mon mari occupait une usine et c'était pas très facile, la vie était compliquée et vous n'en parlez pas suffisamment de ces occupations d'usine parce que les ouvriers ont fait aussi la révolution, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de d'argent, besoin du SMIC, besoin d'un tas de choses et on ne parle que des étudiants. C'est très bien, mais d'ailleurs il y a eu des difficultés pour des rapprochements, les ouvriers avaient des doutes, et ce qui est normal. Je vous assure, j'avais un petit garçon qui venait de naître, il avait 10 mois et j'allais à la mairie chercher des sandwichs, j'avais pas de sous, je pouvais même pas apporter des sandwichs à mon époux qui gardait l'usine avec ses camarades. Voilà, je voudrais qu'on en parle un tout petit peu plus de ces ouvriers. Merci.
Ma bouffée d'oxygène de mai 68, c'était d'un seul coup savoir que j'avais le droit. J'avais le droit de ça, j'avais le droit d'autre chose, j'avais le droit de parler, j'avais le droit de demander, j'avais le droit de dire que j'existais, j'avais le droit de pas être d'accord, j'avais le droit. Mais quand on n'a jamais été habitué à avoir le droit, c'est pas si facile que ça. Ça s'apprend, mais c'est une chose formidable. C'est que quand on l'a, ça lâche plus jamais. Je suis vieille maintenant, et toute ma vie, on m'a reconnue partout où je suis passée,
en me traitant d'abord de 68 hardes et ensuite de vieille 68 hardes, parce que tout le temps, j'ouvrais ma bouche, mais on ne disait pas comme ça, pour dire ce que je pensais et toutes mes révoltes. Mais des révoltes qui sont souvent constructives, pas pour démolir à tout va. C'est ça que j'ai appris de mes 68. Ça m'a jamais quitté. Et aujourd'hui encore, j'en suis tout émue. Merci, au revoir.
Encore, on avait encore des souvenirs de 68, des retours en arrière et des analyses, et des surtout des souvenirs, alors en fait, des choses que vous avez vécues, du vécu qui remonte à la surface à l'occasion de ce 40e anniversaire. Vous avez entendu, on a donné la parole aux professionnels de la parole et de la mémoire, mais vos mémoires à vous n'en sont que plus précieuses. Alors aujourd'hui, vous êtes au courant, on vous l'a dit et redit, on part là. J'espère que vous êtes prêts, vous avez le sac et la valise. On part pour Tijuana, en route pour Tijuana. On va faire 3200 kilomètres entre Brownsville, à l'est, au sud-est des États-Unis, mais tout à fait à la pointe sud-est des États-Unis, sur la frontière avec le Mexique. Et puis, on va parcourir les 3200 kilomètres de cette frontière. Et pourquoi donc? Ben, vous le savez, c'est que le génial George W. Bush et son administration ont décidé en 2006 de construire un mur, un rideau de fer entre le Mexique, les pauvres, et les États-Unis, c'est-à-dire le camp des riches. C'est le mur ne sera pas sur toute la longueur, sur les 3200 kilomètres, mais sur 1200, un peu plus de 1200 kilomètres, parce qu'il y a une partie de cette frontière qui est la frontière naturelle, celle du Rio Grande et du Rio Bravo, selon qu'on se place d'un côté ou de l'autre. Et nous, on va aller de chaque côté avec Antoine Chao et Guy Vanctil, l'un parlant parfaitement anglais et l'autre parfaitement espagnol. Donc, en fait, voilà, et moi, je suis entre les deux, entre le latinos et le yankee. Voilà, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour l'équipe du répondeur de l'émission et tous les AMG. Je vous appelle du repère d'Aix-en-Provence. Gérard Duménil, économiste, directeur de recherche au CNRS, passera à Aix puis à Marseille dans le cadre de sa conférence « La crise du capitalisme néolibéral sous hégémonie états-unienne, enjeux économiques et perspectives politiques ». Ces conférences-débats sont co-organisées par les Amis du Monde Diplomatique, Attaque Pays d'Aix, l'Université Populaire et Citoyenne d'Aix et le Repère d'Aix-en-Provence. Elles auront lieu le mardi 25 mars à 18h30 à Aix, à l'Institut d'études politiques, 25 rue Gaston de Saporta, c'est face à la cathédrale Saint-Sauveur. Et le lendemain, le mercredi 26 mars à 19h30 à Marseille, au point de bascule, au 108 rue Breteuil, dans le premier arrondissement. Merci beaucoup, bonne journée à tous, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Gisèle de Nantes. Dans le cadre de soutien aux faucheurs d'OGM, je demande à toutes les personnes qui sont concernées de se rendre le jeudi 27 mars à partir de 11h devant le tribunal de Nantes, 19 quai François Mitterrand, pour soutenir Henri, 15 ans, reconvoqué devant le juge pour enfants le jeudi 27 à 11h30, le procureur étant en désaccord avec la décision de relax de la juge. Alors, cette décision était en date du 15 janvier et Henri doit être rejugé donc le 27 mars. S'il vous plaît, venez le plus nombreux possible. Merci.
Et là, on peut voir la frontière là, un peu plus loin là.
Over there.
Juste là-bas.
Et qui est-ce qui voit ça en arrivant? C'est tous ceux qui viennent de passer par ce tunnel métallique. Et chaque cloc-cloc, on entend la cloc-cloc, c'est le tourniquet, mais qui ne tourne pas dans l'autre sens. Hein.
When a Border Patrol agent apprehended a migrant, the agent was responsible for returning the migrant to either a detention center or to the other side of the border. That is to say, back to Mexico.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben, si j'y suis, avec Guy Vanctil et Antoine Chao, en route pour Tijuana.
Flight number 2.
arriving from
Ça, c'est un endroit absolument magnifique. Boca Chica. Et c'est d'abord l'odeur, hein, une odeur de mer très très forte. Et une brume magnifique autour de nous. On est à la pointe des États-Unis, à la pointe sud-est des États-Unis. À droite, c'est le Mexique. Et à gauche, c'est les États-Unis. Et là, on est sur cette plage magnifique, il y a de la brume. Il y a des gars qui campent, là, on aperçoit une caravane. Il y a des algues, là. Oh, quelle merveille. Belle vague, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, on ne sait pas jusqu'où. On a traversé là, tout un paysage très, très plat. On peut dire jusque-là, absolument inhabité. Une bicoque de temps en temps, plus ou moins en loc. Quelques caravanes. Des gens qui campent, qui viennent passer un moment là. Il faut dire que c'est on est en février, hein, ça doit être sans doute beaucoup plus fréquenté l'été. Mais c'est sublime, il y a une sorte de brume colorée là autour de nous, c'est magnifique. Alors dis donc, c'est là que se jette le Rio Grande quelque part.
Ouais.
Mais là on le voit pas. En tous les cas, c'est par là quoi. C'est quelque part par là, l'embouchure du Rio Grande.
Rio Bravo.
Alias Rio Bravo. The world is too small for wall. The world is too small for wall. C'est ce qu'on peut lire d'un côté du mur. Et de l'autre côté, quelqu'un a écrit ceci: trop de murs, pas assez de ponts. C'est ainsi. Chacun déplore, chacun tous deux d'accord, mais chacun l'ignore. Car comment faire pour lire de l'autre côté? Il en faut des efforts, des escalades, des souterrains, des contorsions, des chiens de garde et des chevaux de frise, des miradors, des matons, des radars, des caméras infrarouges, des capteurs, des projecteurs, des trouilles et des patrouilles. Pour franchir, franchir. Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière? Voilà ce que dit le mur. Voilà ce que montre le mur. Ce que le mur fait exister, c'est l'autre côté. Avant que le mur ne soit construit, il n'y a pas d'autre côté. Voilà sans doute pourquoi les hommes ont toujours fait des murs. Il n'y a pas qu'ici, Mexique, États-Unis, il n'y a pas que là-bas, Israël, Palestine. Il y a le mur de Berlin, la muraille de Chine, le mur entre les deux Corées, le mur de sable du Sahraoui, les barbelés de Melilla et Ceuta. Il y a les lignes Maginot, les murs de l'Atlantique, mur Adrien, lignes de démarcation, etc., etc. Et ceux qui les construisent perdent toujours. Les murs sont construits avec les barbelés de la haine, le béton de la peur et les pierres du repli. Ils finissent toujours par perdre, mais ça peut durer longtemps avant qu'ils perdent et que s'écroule la baliverne. Ici, c'est un mur contre les pauvres que l'on construit entre le Mexique et les États-Unis, contre les pauvres airs, entre les cactus, la misère, leur mord la nuque. 3141 kilomètres, elle fait la frontière de Brownsville à San Diego, ou si vous préférez côté Mexique, de Matamoros à Tijuana. Une partie de la frontière, c'est le Rio Grande, ou si vous préférez côté Mexique, le Rio Bravo. C'est plus à l'ouest que le mur est en construction. 1126 kilomètres de mur, c'est ce qu'a décidé l'excellent George Bush W, qui fait l'admiration humide de notre président. En octobre 2006, il a fait accepter ça, W. Secure Fence, avec l'approbation des démocrates tels que Hillary Clinton et Barack Obama. Oui, ils ont approuvé. 1126 kilomètres. De quoi couper la France en deux, de Lille à Marseille, d'un seul coup de hache. Les travaux sont en cours, par bout, par tronçon, c'est ce qu'on va voir. Mais les clandestins contournent, les clandestins passent toujours. Les clandestins, c'est comme de l'eau dans un panier. Et il y a une raison à ça, toute simple, évidente. Toute simple, évidente. Côté États-Unis, tu gagnes 10 fois plus qu'au Mexique, si toutefois tu as du boulot. Aux États-Unis, tu fais 8 dollars de l'heure et 10 fois plus qu'à Mexico. Et pour ça, tu es prêt à tout. C'est comme la guerre. C'est pas comme la guerre, c'est la guerre. Et c'est ce qu'on va voir. Et une histoire avant de commencer. À Eagle Pass, côté Texas, sur la frontière, marquée par le Rio Grande à Eagle Pass, en 2004, les gardes frontières de la Border Patrol ont repéré une forme qui flottait sur le Rio Grande et ils l'ont repêché. Et c'était un crucifix, un mystérieux Christ grandeur nature. Sachant pas trop quoi en faire et par habitude, ils l'ont mis dans la prison. Et comme personne ne venait le chercher, le curé du coin l'a récupéré pour son église. Et il est devenu un repère, un symbole célébré. El Cristo Indocumentado. El Cristo Indocumentado. Le Christ sans papier. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. The world is too small. Forward.
Là-bas si j'y suis.
To the other side of the border.
Los Tigres del Norte, somos más americanos.
Ya me gritaron mil veces.
Mille fois déjà on m'a hurlé.
Que
je devais rentrer chez moi. Parce qu'ici il n'y a pas de place pour moi.
Quiero recordarle al gringo.
Mais moi j'aimerais rappeler au gringo que je n'ai pas croisé la frontière.
La frontera.
Mais c'est plutôt la frontière qui m'a croisé. L'Amérique est née libre et c'est l'homme qui l'a divisée. C'est eux qui ont tracé la frontière pour que je puisse la traverser. Et ils m'appellent l'envahisseur. C'est une grossière erreur. Ils nous ont volé 8 de nos états. Qui est donc l'envahisseur? Je suis un étranger dans ma propre terre. Je ne viens pas faire la guerre, je ne suis qu'un honnête travailleur. Et si l'histoire ne ment pas, c'est ici que s'est installée dans la gloire la puissante nation. De guerriers courageux, d'indiens des deux continents, mélangés aux Espagnols. Et si on se réfère au passé, nous sommes bien plus américains que le fils de l'anglo-saxon.
Que el hijo de anglo-saxon.
Et ben voilà, c'est là que ça commence. C'est là que tout commence. Là, de ce côté-là, nous on est du côté des États-Unis et c'est le Rio Grande qui est devant nous. Ça rappelle les westerns de quand on était petit parce que le Rio Grande de ce côté-là, c'est du côté en face. Du côté mexicain, d'ailleurs, on voit le drapeau du Mexique là en face. C'est le Rio Bravo.
Ah, tu vois, on fait fuir la patrouille de la police des frontières américaines qui était tranquillement installée à l'ombre le long du fleuve. Et
voilà, c'est l'autre qui travaille. Voilà. Voilà le lot. Voilà.
Les avec gars, leur petit quad là.
Leur petit quad, leur casque vert.
Leur pistolet.
Et ils longent le Rio Grande. Alors le Rio Grande, le voilà, c'est pas large du tout, ça fait 10 mètres de large. C'est assez verdoyant, c'est pas mal. Dans cette ville de Brownsville, où nous sommes, donc entre le golfe du Mexique et le Mexique et les États-Unis d'Amérique dans notre dos. C'est là que tout commence. Et à partir de là, c'est le début de la frontière qui fait 3200 km jusqu'à San Diego. Et 3200 km. Et le projet du génial George W. Bush, eh ben, c'est de faire un mur. Pourquoi donc ? Pour empêcher les Mexicains d'en face, les pauvres d'en face, de venir de ce côté-ci, c'est-à-dire chez les riches. Voilà. Et c'est en cours de construction. Et certains ne sont pas entièrement d'accord avec ce projet. Dont notre amie Elisabeth, qui est avec nous. Dis-moi, là-bas, on voit un pont avec des gens qui passent à pied. C'est quoi ? C'est la frontière ?
Lo que se puede divisar, ver desde aquí, es el puente internacional.
Ce qu'on voit, c'est le pont international.
Entre Brownsville y Matamoros.
Donc, entre Brownsville et Matamoros.
Et justo en el punto en donde van a construir el muro de la vergüenza.
Juste ici, juste à l'endroit où ils vont construire le mur de la honte.
Le mur de la honte. Pour toi, c'est le mur de la honte.
Si quieren poner un muro, que lo pongan. No va a funcionar. Nos vamos a tardar un poquito para averiguar cuál va a ser la mejor manera de cruzarlo, ya sea por arriba, por abajo, por un lado, por el otro.
Ils peuvent faire tous les murs qu'ils veulent. De toute façon, on réfléchira à comment passer par au-dessus, par en dessous, à gauche, à droite, mais on trouvera toujours la solution.
Siempre.
Siempre, elle a dit. Ah, Elisabeth Garcia. Elisabeth Garcia, à Brownsville, elle anime une ONG, une association qui s'appelle Proyecto Digna. Voilà, le projet de la dignité. Et elle est très remontée. Elle n'est pas la seule à être remontée contre cette frontière, contre ce mur qui est en train de se construire. C'est assez brinque-ballant, hein, cette histoire. C'était très flambant, le grand mur, le grand machin. Ça, c'est un peu de briques et de brocs. On va découvrir ça au fur et à mesure. Mais c'est une grande affaire. Deux Mexicains par minute passent illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On estime à 1 million chaque année le nombre de Mexicains qui passent. C'est pas seulement des Mexicains d'ailleurs, il y a aussi des Latinos de plus au sud, du Guatemala, Honduras, etc., qui viennent, qui remontent. Pourquoi faire ? Eh bien, tout simplement, c'est toute évidence, on connaît bien sûr ce qui les pousse, ces gens, c'est évidemment la pauvreté, la misère. Et puis aussi, quand même, parfois aussi, pourquoi pas, le goût de l'aventure, d'une autre vie, et puis de ce qui scintille, de ce que... Mais essentiellement, évidemment, c'est une migration économique. Donc 1 million passe chaque année et on considère, parce que les chiffres sont très flous, que la moitié, peut-être un tiers seulement, parvient à rester aux États-Unis d'Amérique. Si bien qu'il y a au moins, et ça encore ces chiffres sont évidemment discutables, au moins 12 millions d'illégaux latinos, aux États-Unis, dont 7 millions Mexicains. Ça fait beaucoup de monde, et évidemment c'est un sujet essentiel, c'est un sujet principal, un petit peu comme chez nous. Et ça a pris des proportions mais particulières depuis 1994. On va reparler de ça. Là, on est donc, vous avez compris, sur la frontière, sur la charnière entre cette ville de Brownsville qui a pas beaucoup de charme, hein, une ville qui a pas beaucoup de grâce. Et on nous dit, c'est Elisabeth et d'autres qui nous disent ça, que c'est une ville très pauvre, une des villes les plus pauvres des États-Unis, mais c'est d'Eldorado pour ceux d'en face, ceux de Matamoros. On va aller faire un tour là-bas à Matamoros et on va voir la différence. Alors là, le mot contraste est d'une violence absolue. C'est la rencontre entre le nord et le sud d'une façon extrêmement brutale, extrêmement violente et qui se prolonge tout au long de cette frontière, mais ça ne va pas sans profiter évidemment à certains. Alors, explication d'Elisabeth Garcia.
La compañía que muy cómicamente es la misma compañía que construyó el muro en Israel.
L'entreprise qui est en train de construire le mur, ironiquement, c'est la même qui a construit le mur en Israël.
Ok. Entonces, si lo quieren construir, que lo construyan. Ya la gente habla, ya la gente habla, ya está planeando. Si hacen una de 12 metros, ¿cómo vamos a cruzarlo? Pues vamos a comprar una escalera de 14 metros.
De l'autre côté, les candidats à la migration se renseignent sur la hauteur du mur prévu pour calculer la hauteur de l'échelle qu'ils vont devoir acheter. Donc si le mur fait 12 mètres, ils ont déjà commandé une échelle de 14 mètres.
Et les coyotes ya están pensando cuánto más voy a cobrar.
Ah. Et les coyotes, c'est les coyotes, les passeurs, ils sont déjà en train de faire les barèmes de prix.
Savoir combien ça va coûter en plus pour passer.
Entonces, inclusive los agentes de la Border Patrol que están cuidando aquí la frontera.
Alors même les agents de la patrouille.
En una reunión que tuvimos con ellos mismos dijeron, el muro va a detener la migración de la gente por 7 minutos.
Eux-mêmes admettent pendant des réunions qu'on a eues avec eux que cette nouvelle barrière ne pourra retenir les migrants que 7 minutes de plus.
Entonces, eso es tan efectivo que va a ser el muro.
Voilà l'efficacité du mur.
Es lo efectivo del muro.
Le budget pour la construction de ce mur au départ était prévu de 2 milliards, c'est ce qu'avait annoncé l'administration de George Bush en 2006. Les démocrates avaient dit tout de suite, bah, c'est pas vrai, ce sera au moins 7 milliards. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. On avance le chiffre de 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. On ne sait pas très bien où on va, mais il est vrai, ce que dit Elisabeth Garcia se confirme, parmi les fournisseurs pour la construction de ce mur, on trouve la société Colsman, qui est la filiale américaine de Elbit Systems, qui est la plus grande firme israélienne dans les technologies de surveillance, parce que c'est pas seulement de construire un mur avec des grillages, des barbelés, non, c'est doublé de tout un véritable mur high-tech, avec des quantités de systèmes qu'on découvrira peu à peu ensemble, et qui sont les mêmes que ceux qu'effectivement qu'on trouve en Israël, enfin entre Israël et les territoires palestiniens. C'est les mêmes techniques, sauf que là c'est quand même un petit peu plus grand.
Et es una mala interpretación, una misconcepción que tienen el norte de los Estados Unidos de que estamos cruzando la frontera por números y números.
C'est une fausse image qu'on se fait de penser que les gens traversent comme ça par flot la frontière. Les États-Unis ne sont pas envahis par les Mexicains.
Ahora, todo el mundo sabemos que la razón principal de la migración es la economía.
Parce qu'on sait tous que la raison première de l'immigration, c'est l'économie.
A mediados de los 90, había un flujo muy grande de migración.
Au milieu des années 90, il y avait beaucoup de migration. Il y avait un flux important.
Pero poquito después del pacto de NAFTA.
Mais après les accords de libre commerce en 94.
La migración se disparó, se fue por miladas.
C'est à ce moment-là que le flux migratoire a augmenté de façon incroyable.
Explosé littéralement.
C'est ça qui. Pendant ce temps-là, il y a la patrouille Border Patrol qui passe et qui nous fait un petit signe de la tête.
Voilà. C'est que 1994, c'est l'entrée en vigueur de l'ALENA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange nord-américain qui fait un ensemble économique avec le Mexique, les États-Unis et le Canada, avec libre circulation des marchandises, ce qui va entraîner pour des quantités de petits paysans, de petits producteurs, par exemple au Mexique, notamment les Chiapas, par exemple, qu'on connaît, ce qui va entraîner évidemment des conditions de concurrence impossibles pour eux, ce qui engendre un appauvrissement encore plus grand de ces populations pauvres, mais qui arrivent à subsister à peu près, ce qui va les précipiter vers le nord. Mais ce qui est très intéressant, parce que au nord, il y a déjà ces maquiladoras, c'est-à-dire ces usines tournevis, qui sont toutes prêtes, qui existent déjà, mais qui vont exploser, qui vont les exploiter d'une manière, mais alors, formidable, dans des conditions absolument infra-humaines de surexploitation. C'est-à-dire que l'ALENA, c'est très très bon pour le business, pour l'économie, et maintenant, en pourchassant les sans-papiers, en créant un mur, c'est bon aussi pour le marketing électoral.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
Con solo unos días de conocer a Barack Obama, está claro que no solo me está hablando a mí, sino también a todo Texas. Obama recibió el respaldo del congresista Charlie González y su apoyo sigue creciendo con líderes hispanos de Dallas, Corpus, Houston y Brownsville. Respaldando a Obama, el San Antonio...
Oui, campagne de Barack Obama à la télévision américaine. On a assisté à un de ses meetings à Houston et sur la question de ce mur et de l'immigration, Barack Obama, aussi charmant soit-il, ne veut pas trop décevoir un électorat assez conservateur sur ces points-là. On reparlera de tout ça, c'est beaucoup moins simple qu'il nous paraît vu d'ici. Évidemment, l'ALENA a été quelque chose de très séduisant. Plus de frontières, rien de plus merveilleux. Supprimer les frontières entre les hommes, c'est abolir les frontières, c'est un vieux rêve de citoyen du monde. Regardez, Médecins sans frontières, Vétérinaires sans frontières. On a même parlé du sans-frontiérisme. C'est un bel horizon. Sauf que, c'est devenu capitalisme sans frontières. Et tout ça, c'est construit, ou plutôt c'est déconstruit, au détriment des plus pauvres. On s'en doutait, on le disait à l'époque, en janvier 94, dans le Chiapas, le sous-commandant Marcos se levait avec les siens, avec son armée, avec le ZLN, contre l'entrée en vigueur de cette ALENA. Et il avait raison, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est traduit par un appauvrissement formidable des Mexicains, surtout des petites gens, des paysans, des tout petits exploitants, exploités plus qu'exploitants, qui n'ont pas eu d'autres ressources que de se précipiter vers le nord. C'est-à-dire qu'on est passé d'une inégalité subie à une inégalité choisie. L'ALENA, c'est choisir l'inégalité, et là, on en voit les effets. Les effets, c'est effectivement une augmentation considérable de la migration vers le nord, et contre cette migration qui rapporte énormément, on va voir comment et à qui, eh bien, on construit ce mur qu'Elisabeth Garcia appelle le mur de la honte.
La base est ici.
Ce qui est amusant, c'est cette image, voilà, c'est là, on voit derrière le drapeau américain et le drapeau du Texas, Lone Star State, le drapeau avec une seule étoile, un vieil hôtel tout abîmé, Hôtel El Jardin, avec des vieux carreaux cassés, complètement délavés, et il y a écrit d'une vieille peinture, là aussi délavée, Bienvenidos, amigos de México. Bienvenue aux amis du Mexique.
Désinfecté cet hôtel.
Non, fonctionne.
Il fonctionne plus.
Voilà.
Tampoco el mensaje funciona ya.
Non plus, n'est plus d'actualité.
Con nuestro nuevo querido muro ya no va a funcionar.
Et d'autant plus quand il y aura le mur. Si lo hacen.
Mais écoute, je suis un peu déçu par le Rio Grande, franchement.
Moi, j'ai vu les westerns quand j'étais enfant. Le Rio Grande, c'était grand. Ça
dit bien ce que ça veut dire. And you know, it was. 30 years ago.
Il y a 20
it
ans,
was
il était
beautiful.
Plus large.
I mean, it was like from here all the way to the other side. I mean, it was a huge thing. But because it hasn't rained in 30 years, it's going down.
Il pleut plus maintenant. Du coup, il a diminué.
Tenemos una sequía muy fuerte.
Il y a une sécheresse très très forte.
Qui était large.
Era cuando yo tenía 5 años, era una cosa impresionante.
Quand j'avais 5 ans, il était impressionnant le Rio Grande.
Ahora, tú lo ves pequeño, sin embargo, es muy engañoso.
Tu le vois petit, mais par contre, il faut pas se tromper, il est profond.
Porque no solamente es profundo, pero hay corrientes debajo que te agarran.
Il y a des courants qui peuvent t'entraîner vers le fond.
Entonces, mucha gente a cruzando se ahoga porque no sabe que hay corrientes por abajo.
Qui se noient en essayant de traverser.
Sembrando para ver si germinan viento del norte, pensamiento y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo. Sí señor, sí señor, sin ego, sonrisa, realidad y dolor. Suelo presente, esperando en represente. Baja por las noches, me arrolla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento, y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Sí, señor. Eco, sonrisa, realidad y dolor. El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que ocurre. Viene, viene el que ausenta, la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor.
Un peu plus loin sur la frontière, on rencontre Eloïsa Tamès. Parce que vous vous dites, oui, oh ben, Elisabeth Garcia, on a compris, c'est une femme engagée, une militante, etc. Elle ne peut pas penser autrement et tenir d'autres propos que ceux qu'elle tient. Bon, très bien, alors voilà Eloïsa Tamès. Elle, c'est pas une militante du tout, c'est une femme déjà d'un certain âge, qui a 72 ans exactement, elle nous l'a dit. Et elle enseigne à l'université. On va dire que c'est voilà une femme de la classe moyenne, et elle nous emmène, elle donne rendez-vous dans un petit endroit le long de la frontière qui s'appelle El Calabos, non loin de Brownsville, et c'est sur la frontière, et elle veut nous expliquer quelque chose, parce que cette femme se bat contre la réquisition de son terrain par les autorités pour y construire le fameux mur. Donc, le fameux mur de la honte, selon Elisabeth Garcia. Donc, voilà, un autre point de vue et une autre analyse que celle qu'on vient d'entendre, donc Eloïsa Tamès.
The river is about a mile. See where the tree line? Mm-hmm. The river's right there.
Le mur passerait où, là?
It's going to be north of the levee, so it's going to be on this side.
Au nord de la digue, ce côté-là, vers la route.
Yes. Ah. And so it'd be beyond 50 feet.
Donc ça serait à 50 pieds d'ici. Yeah.
Mm-hmm. So that's my house.
Ça, c'est ma maison.
Ah. All of this, and then all the way to the other side of the tree.
Mon terrain, elle est jusqu'à l'autre côté des arbres.
And this was my great aunt. When she passed away, I bought her little place. And this was my great uncle, and I bought his.
Et là, le petit terrain qui est à côté, ça appartenait à ma grande tante que j'ai racheté quand elle est morte. Et ça, c'est mon grand oncle aussi qui avait cette terre.
The Lipan Apache were the tribes that lived in this land.
C'est les Apaches Lipan qui étaient les tribus qui vivaient sur cette terre.
Mais vous, quel lien vous avez avec les Apaches? Vous êtes une descendante des Apaches?
Through my father's line, yes.
Oui, à travers ma lignée paternelle.
So this land was like 12,000 acres.
Ça faisait 12 000 acres. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça, mais ça fait 12 000 acres.
And now I have three.
Et maintenant, three. Il ne reste plus que trois petits...
So
est-ce que de temps en temps, vous trouvez des clandestins qui viennent dans votre jardin?
Oh yes. If they come, they'll go through there. They'll cross and they'll go through there.
S'ils arrivent ici, ils vont plutôt que rentrer sur une propriété privée, ils vont passer entre les arbres.
I've not run into them because I'm sure they come at night.
Mais en même temps, j'en ai pas croisé parce que je suis sûr ils passent la nuit la plupart du temps.
Mais il y a jamais d'incident.
No, around here, no.
Non, ici, jamais rien se passait.
Ils passent, mais ça menace pas votre sécurité.
No. I mean, this has been. We have known that for years here.
Ça existait depuis des années. Si ça a toujours été comme ça.
It's happened all through the years. I mean,
ça s'est toujours eu.
It's normal.
C'est normal que les gens passent.
So my expectation is that the governments really look at the problem and quit supporting the corporations that hire the illegal immigrants.
Moi, je pense qu'on devrait plutôt faire que les gouvernements fassent pression sur les grandes multinationales qui font travailler les ouvriers clandestins.
I mean, the ones that get all the government contracts, like Boeing.
Bah, toutes ces boîtes qui ont des contrats gouvernementaux, Boeing, Hunt.
I believe that the first step, if you're going to control illegal immigration, is to stop the source of employment from these companies who hire them, and then they're They don't give them the minimum wage. They don't have to because they're afraid they're going to be deported.
Parce que si les gouvernements, si les autorités voulaient vraiment arrêter l'immigration illégale, ils s'attaqueraient déjà à la source, c'est-à-dire aux employeurs. Or, les employeurs tirent profit de ces immigrés parce qu'ils ne prennent pas le salaire minimum, parce qu'ils savent que s'ils réclament quoi que ce soit, ils vont être renvoyés à la frontière.
Voilà. Pas besoin d'être gauchiste ni altermondialiste pour comprendre l'évidence. Héloïsa Tamez a tout à fait compris, d'ailleurs, comme la majorité des États-Unis, au moment où la construction de ce mur a été décidée, 53% d'Américains, États-Unis, il faut faire très attention parce que Américains, ça veut dire tous les Américains, donc on va s'efforcer de dire États-Unis, eh bien, étaient opposés. Mais il y avait une partie de cet électorat qui intéressait beaucoup à l'époque. George Bush, voilà, pourquoi cette construction. Et puis aussi parce que c'est un sacré business. C'est un sacré business. Par exemple, j'évoquais le côté high-tech de ce mur. Encore une fois, c'est pas seulement des barbelés et un rideau de fer. C'est doublé d'un mur virtuel avec toute la technologie high-tech et notamment des tours high-tech, c'est-à-dire de très hauts miradors. Sont prévus tout au long de cette frontière, et on en a vu, on en verra, on vous montrera c'est l'une de ces tours, mais il en est prévu 1800 le long de cette frontière, et eh bien ce marché des tours a été attribué à Boeing, la société Boeing, pour la modeste somme de 3 milliards de dollars. Quoi, ça rapporte quand même, c'est intéressant, les actionnaires de Boeing se frottent les mains. On revient au propos d'Héloïsa Tamez.
We don't want it. We don't want the
one. On n'en veut pas.
We in the United States believe in a democracy, observance of human rights, right?
Nous, les États-Unis, on croit en la démocratie, au respect des droits de l'homme.
So we celebrate when walls are torn down, when the Berlin Wall went down.
Quand le mur de Berlin tombe, on le fête, on le célèbre.
And then, what are we doing here?
We're building a wall. On construit un nouveau mur.
We're being hypocrites.
On est complètement hypocrites en faisant ça.
So what we're saying to the world, and that this is the impact that is most painful.
Et c'est ça, c'est le message qu'on est en train d'envoyer au monde, et c'est le message qui est l'image la plus négative que ça donne ce mur.
And it has long-term impact.
Et ça aura des effets secondaires à long terme.
And that is the wall will represent the erosion of American democracy.
Et ce mur, ça montre l'érosion de la démocratie américaine.
And that concerns me much more because that will be the legacy that today's government is going to pass down to the young people of America.
Et c'est ça qui me rend très mal au cœur. C'est ça, voilà, parce que c'est ça l'héritage qu'on va léguer aux générations futures, ce mur. Et l'image qu'il porte.
Mais là on est en 2008, vous avez des élections au mois de novembre prochain, les démocrates sont en position de reprendre le pouvoir ou de prendre le pouvoir. Est-ce qu'ils auront la même politique? Est-ce qu'ils appliqueront la même politique? Quelles sont les positions des candidats démocrates par rapport à ce mur actuellement?
At this point in time, looking at the candidates and looking at their record, they all, the front runners, all of them voted for the Secure Fence Act.
Au point où on est aujourd'hui, si on regarde qui a voté pourquoi, tous les leaders, tous ceux qui sont en tête des campagnes, d'un côté comme de l'autre, ont tous voté pour la construction de ce mur.
All three.
Les trois. McCain, Obama, Clinton.
And Clinton.
Voilà, meeting d'Hillary Clinton. Alors, qui elle aussi, je le rappelle, était favorable à ce mur. Donc, on va aller en face. On va franchir la frontière et on va passer de Brownsville à Matamoros, de l'autre côté, côté Mexique. Alors, il y a un côté où c'est très facile d'entrer. Vous avez compris, si vous sortez des États-Unis, vous rentrez au Mexique, c'est très, très facile. On jette un petit coup d'œil sur votre passeport et puis voilà. Par contre, pour revenir, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il y a des heures d'attente sur certains postes frontières. On le verra notamment à Tijuana. Entre Tijuana et San Diego, c'est le poste frontière qui a le plus de passages au monde. Et c'est toute une affaire, cette frontière. C'est tout un symbole d'un affrontement très, très violent, encore une fois, entre le nord et le sud. On quitte Brownsville, donc, pour de l'autre côté de la frontière, Matamoros.
Alors Elisabeth, là on va passer du côté Matamoros. Alors il y a combien de passages? Par où on va passer nous?
Ok, entonces estando en la frontera entre Brownsville et Matamoros, hay tres puertos de entrada.
Donc entre Brownsville et Matamoros, il y a trois points d'entrée.
Entonces aquí en Brownsville tenemos tres puentes.
Donc ici à Brownsville, c'est des ponts, il y a trois ponts.
El puente viejo.
Donc il y a le vieux pont.
El puente nuevo.
Le nouveau pont.
Y el puente extra nuevo.
Et le pont extra nouveau, extra neuf.
Ahora hay un poco de confusión. Porque el puente viejo lo remodelaron, entonces ahora es nuevo. Y el puente nuevo ya se quedó viejo. Entonces la gente a veces bromea y dice, es el puente viejo nuevo, el puente nuevo viejo. Y el puente...
En fait, comme ils ont restauré le vieux pont qui est maintenant neuf, on ne sait plus si c'est le vieux pont qui est le neuf ou le neuf qui est le vieux. Donc les gens blaguent avec cette histoire.
Y el puente nuevo nuevo.
Et en plus, il y a le pont nouveau nouveau, l'extra neuf, quoi.
Yeah. Vamos ahora a cruzar el extra nuevo.
Donc nous, on va passer par l'extra nouveau.
On vient d'arriver.
Là, on arrive... Là, on arrive, c'est encore plus modeste. Moi, j'aime pas dire pauvre, mais enfin, c'est quand même...
Là, c'est le sordide, quand même.
On a longé un canal, c'est un vrai cloaque, avec des histoires de rats, de mots malades. C'est un vrai enfer, sont nos amis, là. Le plus fou... C'est qu'ils continuent de quitter leur campagne, leur Mexique, là, pour venir s'écraser contre cette frontière en espérant passer. Et ben, ceux qui n'y arrivent pas, ben, ils restent là, échoués, quoi. C'est les échoués, les refusés. Comment dire, la chair à canon de la guerre économique, et qui sont exploités, surexploités dans les maquiladoras. Les maquiladoras, on en parlera, c'est ces usines qui sont tout le long de cette frontière, des usines qu'on appelle les usines tournevis, et qui exploitent tous ceux qui, venus du sud de l'Amérique, et beaucoup de Mexicains, mais encore une fois pas seulement, qui sont bloqués là sur cette frontière et qui travaillent dans des conditions d'exploitation totale dans ces maquiladoras. Il y a une chose qu'on a vue en franchissant la frontière, dans les embouteillages, il y a plein de gens qui se débrouillent pour vendre des petits trucs, un journal, une boisson. Et il y a un gars qui vendait je me demandais ce que c'était, ces petits comme des petits colliers ou des boucles d'oreilles qui étaient des petits poulets qui représentaient des petits poulets jaunes avec les ailes qui battent comme ça, des petits machins en plastique. Et on s'est intrigué, on a compris par la suite, c'est des pollo, ça veut dire le poulet. Et le poulet, c'est celui qui veut traverser. Celui qui veut traverser la frontière, c'est un pollo, c'est un poulet. Et celui qui, le passeur, on l'appelle aussi le coyote, mais il y a un autre mot, c'est pollero, c'est-à-dire le conducteur de poulet, quoi, celui qui s'occupe de la volaille. Et donc c'est devenu une telle institution, on nous a parlé d'industrie du poulet. Industrie du poulet, c'est une activité. On va voir des villages, des petites villes coincées sur la frontière qui n'ont plus que pour ressources que les clandestins qui tentent de passer, qui viennent avec quelques petits sous d'économie. Souvent c'est tout le village ou toute une famille qui s'est cotisé pour envoyer l'un des leurs de l'autre côté, du côté des États-Unis, pour renvoyer de l'argent à la famille, bien évidemment. Et donc voilà, c'est devenu une telle industrie, on en reparlera, que ça se résume comme ça à un symbole. Donc là, on est dans cette maison, dans cette cour très 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 pauvre, très misérable. C'est vraiment la galère. Et là, nous rencontrons Ivan.
Ivan de Jesús Jiménez.
Je m'appelle Ivan de Jesús Jiménez.
Ivan de Jesús. Tu as quel âge?
23 años.
J'ai 23 ans.
Toi, tu travailles dans une maquiladora?
Si, je travaille dans une maquiladora.
Oui, oui, moi je travaille dans une usine de montage.
Bueno, pues yo trabajo, tengo una jornada de trabajo de 12 horas.
Moi je travaille 12 heures par jour.
12 heures par jour?
Sí, dos turnos.
Donc c'est les 2-12.
Ah, ouais, c'est pas les 3-8, c'est les 2-12.
Pagar dos turnos y producir como si fueran tres turnos.
Donc en fait, la stratégie c'était payer comme s'il y avait deux tours de travailleurs, mais produire comme s'il y en avait trois.
Oui, c'est-à-dire que au lieu d'avoir trois équipes de 8 heures, d'en avoir deux de 12 heures avec les mêmes salaires.
Si, pour le même costo, 1000 pesos.
Je touche 1000 pesos.
1000 pesos, ça fait 100 dollars, mais à condition de travailler 60 heures.
Si, bueno, el viernes no trabajo 12 heures, trabajo 9.
Non, oui, enfin, le vendredi, je travaille que 9 heures.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pour 57 heures de travail par semaine, tu peux te faire 1000 pesos, c'est-à-dire 100 dollars par semaine. C'est une entreprise qui fabrique quoi?
Fabricamos artículos de papelería, lo que son sobres, cuadernos, libretas, carpetas.
On fabrique de la papeterie, du papier, des enveloppes et tout ces genres de choses, de fournitures.
Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as eu un accident?
Sí, un accident.
T'as la main abîmée?
Yo estudiaba anteriormente, estudiaba y trabajaba. No tenía mucho tiempo para dormir.
Ce qui se passait quoi en même temps que je travaillais, j'étudiais? Et donc j'avais vraiment peu de temps pour dormir et récupérer la nuit.
Estudiaba ingeniería en sistemas, ya no estudio.
Enfin, j'étudiais ingeniería. Parce que maintenant j'ai arrêté, mais c'était l'ingénierie en système.
Computacional.
Dans les ordinateurs.
Ce que tu as essayé, c'est de faire des études tout en travaillant pour essayer de t'en sortir.
Sí.
Ouais, c'est ça.
Bueno, viendo la situación que como estaba, que podía trabajar y estudiar, pero no podía asegurar mi integridad física. Así que mejor decidí dejar de estudiar.
Comme j'ai vu que j'arrivais pas à travailler et à étudier sans nuire à mon intégrité physique, j'ai préféré arrêter d'étudier.
Et maintenant tu retravailles.
En la même machine.
Sur la même machine. Alors là on continue à discuter et en fait il nous explique que la maison d'à côté, les voisins, eux ils ont été passeurs pendant longtemps. Là, ils ont arrêté, mais là, ils ont l'argent pour construire la maison un peu plus cossue que la cabane de bois dans laquelle ils vivent. Et donc, il y a un gros portail en fer avec un petit toit en béton. Et la maison est repeinte. Ils ont préparé déjà peut-être des armatures en fer pour monter dans l'étage. Elle est bien peinte en rouge. Il y a un gros lampadaire, etc. Et c'est des jeunes, donc, ils arrivent à discuter un petit peu de leur quotidien, de leurs fantasmes, avoir des belles voitures, avoir de l'argent et du trafic ou de personnes ou de drogue selon le marché du moment, quoi. Voilà.
La mayoría de los muchachos son viciosos, son malvivientes.
Donc la plupart des jeunes de mon âge par ici, c'est des délinquants.
Sí, delincuentes en pequeña escala.
Oui, de bas niveau, des délinquants de bas niveau.
Roban a los pobres en lugar de robar a los ricos.
Mais c'est vraiment des mauvais, quoi, parce qu'ils vont voler les pauvres plutôt que d'aller voler les riches.
Ah.
C'est vraiment des délinquants de bas étage.
Ah bah oui, mais on fait ce qu'on peut, hein. Alors, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un mur de parpaing qui sépare là où nous sommes du voisin. Effectivement, sa maison est beaucoup plus rutilante. Et ici, c'est en bois encore. Hein. C'est en bois, c'est vraiment une décharge. On a l'impression d'être dans une décharge, quoi. Et à côté, ils s'en sortent.
Ouais, c'est pas Versailles non plus, hein, à côté.
Non, 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 non. C'est un tout petit paftard de banlieue. Avec de temps en temps, dans cette misère, qu'il faut bien appeler la misère, même si c'est très vivant aussi, hein, les gens se remuent, vivent. Mais de temps en temps, on voit passer une superbe voiture, une BM, une Porsche. Et ça, évidemment, c'est le narcotrafic. Et on en parlera parce que c'est très très puissant, c'est très important, pas seulement sur la frontière, pas seulement pour les passeurs, mais à travers maintenant tout le Mexique. Merci à tous, c'était un reportage avec Guy Van Til et Antoine Chao. Merci à Elisabeth Garcia, à Mike Siffer de Proyecto Digna à Brownsville. Merci à Rosa et José et Joé Pérez qu'on n'a pas entendu aujourd'hui mais qu'on entendra
dans les prochaines étapes. Merci aussi à Rafaela et Ivan Jiménez de Matamoros. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas si j'y suis. Et puis on attend toujours avec plaisir vos mémoires, vos souvenirs de mai 68. On prépare une autre émission pour, on verra dans les semaines qui viennent, sur ce 40e anniversaire. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Pascal Baldassari, Yann Chouquet et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, qui attend aussi vos messages au répondeur de la base si j'y suis, dont le numéro est 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Il y a la vie sans bleu ciel d'EDF. Et aujourd'hui, il y a la vie avec bleu ciel d'EDF.
Choisissez de maîtriser vos dépenses en énergie. Avec Suivi Conso de Bleu Ciel d'EDF, vous pourrez suivre votre consommation d'électricité mensuellement si vous le souhaitez et bénéficier de conseils pratiques. Contactez dès maintenant votre conseiller ou consultez edf.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Bleu Ciel d'EDF, l'avenir est un choix de tous les jours. France 3 vous donne rendez-vous. Pendant 5 ans, il s'est terré dans les tranchées. Rentré sain et sauf au pays, Rabolio compte bien profiter à nouveau de sa liberté.
On est comme des animaux, nous. Personne ne nous dit ce qu'on a à faire. Et moi non plus, personne ne me dit ce que j'ai à faire.
Mais c'est sans compter sur la traque du gendarme Somme-Dieu, déterminé à arrêter le braconnier.
Pourquoi tu t'acharnes sur moi ?
Je suis là pour faire respecter la loi. Tu n'as pas l'air de savoir ce que ça veut dire.
Thierry Frémont, Thierry Gibault, deux hommes engagés dans une lutte sans merci. Rabolio, adapté d'un roman de Maurice Genevoix, jeudi 27 mars à 20h50 sur France 3. France 3, de près, on se comprend mieux.
Voilà, et puis bonne nouvelle pour les fidèles de là-bas si j'y suis, et ceux qui ont souscrit à la réalisation du DVD sur Noam Chomsky, Chomsky et compagnie, c'est presque bouclé, et en principe vous devriez le recevoir au mois de mai. Et puis on a été très contents aussi de la tournée, la visite de notre ami Normand Baillargeon, qui est allé un peu partout, vous l'avez rencontré, ça a été un succès à Avignon, à Marseille, et on est très heureux de toutes ces choses-là. Il est 16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Claire Servageant. Salut.
Nous allons poursuivre les réformes et tenir nos engagements. François Fillon a été très clair cet après-midi à l'Assemblée à l'occasion de la rentrée parlementaire. La France ne se gouverne pas à coup de sondage et nous avons fait le choix de la continuité, a dit le Premier ministre. Ce à quoi le président du groupe socialiste Jean-Marc Ayrault lui a répondu que ce n'était pas les sondages qui s'étaient exprimés lors des municipales et des cantonales, mais les Français. À noter qu'au cours de cette séance des questions d'actualité au gouvernement, l'opposition n'a pas cessé de rappeler à la majorité qu'elle venait de perdre les municipales et les cantonales. Nouveau rassemblement devant le rectorat de Créteil aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes, enseignants, lycéens et parents d'élèves, continuent de protester contre les suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine dans l'éducation nationale. Le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, s'est rendu dans l'Hérault ce matin. Il y est allé en compagnie de Martin Hirsch, le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, qui est également l'ancien président d'Emmaüs France. Ensemble, les deux hommes se sont rendus sur les lieux de l'accident qui a fait 7 morts hier sur l'autoroute A9. Parmi les victimes, 5 compagnons d'Emmaüs. Il y a également 4 blessés, dont un dans un état très grave. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Dominique Bussereau. Au-delà de l'enquête en cours, le secrétaire d'État au transport a tenu à faire part de sa compassion à l'égard des victimes. On l'écoute au micro de Mathilde Lemaire.
C'est une compassion accentuée par le fait qu'on se trouve en présence de compagnons d'Emmaüs, avec tout ce que cela représente en symbolique, et de jeunes étudiants qui, après un week-end en famille, retournaient dans leurs écoles. Tout ça est terrible et j'en profite pour lancer un appel, puisque nous allons arriver aux vacances scolaires, puis il y a de grands week-ends au mois de mai, pour que vraiment chacun fasse très attention. On ne connaît pas les circonstances de cet accident, l'enquête bien sûr l'établira. Ce qu'il semble, c'est que le véhicule circulait sur la voie centrale, il a fait une embardée vers la droite, et ensuite quasiment percuté à 90 degrés la barrière barrière de sécurité. La puissance, le poids du véhicule plus les passagers, la barrière s'est brisée nette. Il est ensuite arrivé sur les fils en sens inverse. Tous les prélèvements, bien sûr, seront faits. Il appartient au procureur également de décider ou pas d'une autopsie du chauffeur. L'enquête va vérifier l'état du véhicule, qui apparemment était bon. C'est un véhicule récent. Semble-t-il également, les ceintures étaient portées par, en tout cas, la majorité des passagers, bien qu'on ait retrouvé un certain nombre d'entre eux éjectés. Donc tout ça sera vérifié.
Un deuxième sportif français se dit prêt à boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin. Il s'agit du coureur Leslie Jones. Le marcheur Johan Diniz avait déjà fait savoir lui aussi qu'il était prêt à cette éventualité. Nicolas Sarkozy, lui non plus, n'écarte pas cette éventualité. Toutes les options sont ouvertes, a dit le président lors d'un déplacement à Tarbes, en ajoutant qu'il n'avait pas mis son drapeau dans sa poche. Stéphane Lhomme placé en garde à vue. Le porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire était convoqué par la DST. Il était entendu dans le cadre de l'enquête sur un document classé confidentiel défense qu'il s'était procuré. Un document selon lequel les réacteurs de type EPR n'étaient pas conçus pour résister au choc d'un avion de ligne. Stéphane Lhomme, qui risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour la seule détention de ce document, a donc été placé en garde à vue. C'est ce que vient d'indiquer José Bové. L'Académie nationale de médecine demande un renforcement des politiques de prévention face à la banalisation de la consommation de cannabis. D'après une étude réalisée par l'Observatoire des drogues et des toxicomanies, la consommation de tabac est en baisse chez les plus jeunes, mais celle de cannabis est en hausse. On termine avec les courses à Compiègne. Dans la troisième, premier le 2, deuxième l'As, troisième le 5. Dans la quatrième, premier le 2, deuxième le 7.
Retrouvez tous les pronostics, les résultats, les bonnes affaires du jour par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. France Inter. France Inter.
Toute l'info,
les journaux,
les chroniques,
les dossiers de la rédaction
sur franceinter.com.
Bonjour, c'est Yves Calvi. À 17h, l'invité de Nonobstant est la comédienne Anouk Grimbert. En ce moment, sa vie est vraiment ailleurs qu'au théâtre ou au cinéma. Alors elle nous parle de ses peintures et de son travail d'éditrice pour les lettres de Rosa Luxembourg. Les idoles d'Anouk Grimbert, ce sont ceux qu'elle appelle les vrais gens et qui ne savent pas qu'on les regarde. Bref, elle fréquente peu le milieu du spectacle, mais nous dit pourquoi, selon elle, le théâtre, c'est l'Orient et le cinéma, l'Occident.
Nonobstant, Yves Calvi, du lundi au jeudi à 17h. France Inter présente Bleu Pétrole, Alain Bashung.
Jusqu'au jour où je ne t'aime.
En concert à Paris à l'Olympia les 10 et 11 juin.
Président, résident de la République.
Et en tournée dans toute la France.
Couleur rose à des reflets bleus.
Retrouvez Alain Bashung et ses nouvelles chansons dans le programme musical de France Inter.
France Inter,
la différence.
16h05 sur France Inter. À cette heure-ci, on retrouve Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour et merci d'être avec nous. Plein de nouveaux disques aujourd'hui, on nous dit toujours que le disque disparaît, attendez, bon, pour l'instant, et heureusement, ça ne se voit pas tellement, pas par ici en tout cas, ça me rappelle, je me répète, mais enfin, ceux qui disaient que le livre aussi allait disparaître, finalement, parce qu'il y avait l'e-book, vous savez, cet écran d'ordinateur qu'on pouvait lire, on pouvait faire défiler les textes, seulement, ça fatigue un peu, puis l'objet, c'est tellement sympathique, c'est tellement formidable. Donc, toute l'émission, ou presque, à part un enregistrement, eh ben, je vous propose des nouveaux disques pour ce parcours musical. Voici par exemple la première sérénade pour orchestre de Johannes Brahms. Il était tout jeune, tout beau, il était à Detmold, il dirigeait une classe de chant, il avait une chorale, il était professeur de piano, et puis il a voulu commencer à écrire de la musique pour orchestre, d'abord avec 9 instruments, et puis il a voulu donner à sa première sérénade une tournure plus importante, et finalement il a composé une sorte de symphonie. Seulement, il ne voulait pas l'admettre, parce que quand on on lui a dit ça, Brahms a répliqué « Oh mon Dieu, si on ose encore écrire des symphonies après Beethoven, alors ça ne devrait pas suffire, il faudrait qu'elles aient une toute autre allure. » Alors c'est vrai qu'il va attendre longtemps avant de proposer sa vraie première symphonie. Mais enfin, les sérénades ne manquent pas de charme, la preuve, voici le scherzo de la première. De la première sérénade pour orchestre de Johannes Brahms, interprétée par la Capella Augustina, dirigée par Andreas Spering. C'était un disque, et c'est toujours un disque CPO. Je vais donner les marques aujourd'hui, parce que comme ça, ça fait un peu de publicité pour ces boîtes qui se battent pied à pied et qui résistent et qui proposent vraiment des enregistrements intéressants très régulièrement. Voici maintenant une sonate pour violon et piano forte de Mozart. Elle a été composée, on ne sait pas trop exactement, mais soit à Mannheim, quand Mozart est parti de chez lui, il est parti de Salzbourg pour chercher fortune à Paris, ou à Paris même d'ailleurs, où il a eu le malheur de perdre sa mère, et il avait 22 ans, c'était en 1778, il était déjà passé deux fois à Paris, mais tout gamin et enfant prodige, évidemment, il était très désirable et adorable, et puis voilà, maintenant mis en compétition avec plein de visiteurs, et là il a été assez délaissé, et quand il a proposé à un éditeur parisien d'imprimer ses sonates, finalement, lui, le type a dit, bon, c'est pas si passionnant que ça, je peux pas vous donner beaucoup d'argent, et finalement, Mozart s'est résigné en disant, ben, ça me fera un peu connaître ici. Il n'avait plus beaucoup d'espoir. Et pourtant, ce sont des petites merveilles. Voici un Allegro di molto. On peut dire Allegro molto, tout simplement. C'est-à-dire très allègre d'une sonate de Mozart. Elle est magnifique, à mon sens. Elle est en la majeure jouée sur instrument ancien. Mais, bon, quelquefois, l'instrument ancien, c'est une sorte de cache-misère, qui ne, n'évite pas de penser que il n'y a pas le talent suffisant derrière. Là, non, non, il joue bien tous les deux, et ils vont le prouver immédiatement dans ce beau mouvement très enlevé. Allegro di molto, d'une sonate pour violon et pianoforte de Mozart, en la, numéro de catalogue de Monsieur Köchel, le chevalier Köchel, qui a recensé, avec quelques erreurs, mais enfin c'est quand même une belle œuvre qu'il a faite, donc le catalogue Mozart, Köchel 305, l'époque du passage funeste de Mozart à Paris, passage tout à fait dramatique. Nous avons entendu Gary Cooper, mais oui, c'était pas un film, c'était le pianiste, et Rachel Podger au violon. Et voici maintenant un ami de Mozart, aussi un collègue, Ferlandis, qui était au boy à la cour de Salzbourg aussi, et Mozart lui a dédié un concerto pour cet instrument fameux, le hautbois, qui aurait été inventé par des musiciens de Louis XIV, et c'était un instrument fait pour être joué plutôt en plein air, parce qu'il était en bois, bien sûr, et puis il parlait haut, c'est-à-dire très fort, et encore aujourd'hui, on entend le hautbois donner le la, donner la première note, la note pour l'accord dans les orchestres, parce qu'il a un son perçant, mais aussi quelquefois mélancolique, enfin bon, plein de délicatesse et de finesse. Voici un peu de l'allegro final de ce troisième concerto pour hautbois de Giuseppe Ferlandis, et c'est une première mondiale au disque.